sommes du coup avec Zoun, réalisateur du film Amour et Pissenlit, pour une petite interview. Pouvez-vous vous présenter et nous dire d'où provient le surnom Zoun?
Alors, quand j'ai commencé, avant d'essayer de faire des longs métrages ou des courts métrages, en fait, depuis tout petit, je dessine et puis j'ai toujours rêvé d'être auteur de bande dessinée. J'avais entendu dire que Goscinny et Uderzo avaient appelé Astérix. Astérix, ils avaient commencé par un A justement pour que ça soit en. Alors, je sais pas si c'est vrai, pour que ça soit en première vue. Et moi, je m'étais dit, très naïvement, hein, j'étais jeune, hein, je m'étais dit, oui. Moi, je ne peux pas lutter, donc je vais faire Z, parce qu'en dernière ligne. Et du coup, j'avais cherché un prénom en Z. Je me dis, je ne peux pas lutter contre Astérix, je suis en Z et tout ça. Et puis j'avais trouvé Zoun, parce qu'en plus, visuellement, je faisais le Z comme le N. Donc c'est resté.
Du coup, le film Amour et Pissenlit, c'est, il me semble, le premier long métrage en pixelation de l'histoire de l'animation. Est-ce que vous pourriez nous définir la technique en une ou deux phrases?
C'est une technique d'animation qui consiste à animer des êtres vivants, image par image. Parce qu'en fait, en réalité, c'est comme la stop motion, l'animation en volume, qui consiste à animer des objets réels en volume, que ce soit des poupées, des marionnettes, de la pâte à modeler. Ben c'est la même chose, mais avec des êtres vivants.
Comme j'ai dit, il y a peu d'exemples de longs métrages en pixelation. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi?
J'ai quelqu'un qui m'avait dit, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais qui m'avait dit que c'était un peu considéré comme l'animation du pauvre, que c'était un peu méprisé. Alors je ne sais pas si c'est vrai. C'était un prof d'animation qui m'avait dit ça. Bah c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de possibilités. Et comme j'ai fait le film seul, il y a plein de choses. Je suis un peu frustré parce que pour mon personnage et un personnage de mime, j'aurais voulu faire des choses vraiment encore plus folles. Mais étant tout seul, à la technique, dans le jeu et tout ça, il y a des choses que j'ai pas pu faire, mais je pense qu'il y a vraiment un gros potentiel avec la pixelation.
Mais du coup, alors, vu que votre long métrage est vraiment fait que en technique de pixelation, en fait, qu'est-ce qu'apporte l'animation que ne pourrait pas apporter fa facilement juste tourner, poser sa caméra et juste de filmer?
Mon film, je l'ai vu un peu comme une sorte, comment dire. Une sorte de conte, je voulais quelque chose d'un peu intemporel. Et puis, comme on n'a pas l'habitude de voir comment dire, ce genre de film comme ça, des personnages qui sont animés, tout de suite, on peut se permettre de faire des choses un peu folles. Par exemple, les personnages, ce personnage de Lune qui est dans le film, quand elle se déplace, elle glisse. Ce serait filmé en prise de vue réelle, on dirait qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que c'est? Mon personnage, à un moment donné, se rase avec une sorte de verre en plastique. Enfin, je peux me permettre d'apporter de l'absurde. Et du coup, comme on a accepté dès le début que ce sont des personnages animés, on peut accepter tout. On peut faire des petites scènes absurdes ou des petites scènes oniriques. Enfin, tout est possible du coup. On est comme dans une sorte d'univers parallèle. Enfin, c'est comme ça que je l'ai vu en tout cas.
D'ailleurs, c'est vrai qu'on n'a pas forcément pensé à ça. Est-ce que vous pouvez résumer un petit peu l'histoire, de votre film, justement, comment vous le résumeriez?
Un des personnages principaux s'appelle Nuo. Il partage en ligne ses bandes dessinées, dans l'indifférence générale. Et Lune, c'est la même chose, mais avec des animations en pâte à modeler. Et chacun découvre ses créations via Internet et va se créer une relation, une sorte de relation épistolaire, virtuelle. Nuo, on sent qu'il n'est pas bien, qu'il y a eu une séparation, qu'il y a quelque chose qui. Enfin, on ne sait pas trop, je n'explique pas, chacun peut y mettre ce qu'il veut. Et Lune, elle a des complexes, elle a eu des traumas dans son enfance avec on se moquait de ses grands yeux. Et du coup, elle n'ose pas sortir sans se cacher. Justement, le côté, il y a un petit côté absurde et triste. Elle se cache quand elle sort, ses cheveux bouclés pour cacher ses cheveux bouclés. Elle met un casque d'aviateur et des lunettes d'aviateur. Et du coup, en pixelation, tout de suite, on l'accepte. Voilà, il y a un petit côté comme ça, un peu décalé, qui, je trouve, avec l'animation. Passe tout de suite. Et en parallèle, il y a le Zip, le mime, qui attend le retour de son, comment dire, sa partenaire de cinéma muet.
Ben justement, en parlant du film, est-ce que vous avez eu des contraintes spécifiques ou même autres pour réaliser ce film?
Bah déjà la technique, parce que j'ai fait beaucoup de scènes, que ce soit d'ailleurs en stop motion ou en pixelation. J'ai fait beaucoup. Normalement, généralement, ça se fait dans un studio ou en intérieur quand on fait par exemple de la stop motion. Parce que on contrôle la lumière. Par exemple, on prend des petits personnages, voilà, on va mettre la lumière d'une certaine façon, la lumière artificielle. Et du coup, il n'y a pas de. Comment dire? On contrôle pas la lumière à l'extérieur. Le soleil va bouger, les nuages vont passer, et donc quand on fait des photos image par image, la luminosité va changer. Ça peut tout de suite faire des. Une fois que ça passe en, une fois que le montage est fait, on va avoir des, comment dire, des scintillements. Ça va faire, ça va pas être terrible quoi. Donc ce qui était très dur, c'était les scènes d'extérieur. Par exemple, quand il y a Zip sous un arbre, ou il y avait les nuages qui passaient. Donc ça va sur certaines scènes, ça peut donner bien, ça peut donner une ambiance, mais dans certaines scènes, par exemple quand il se déplace, je me débrouillais en fait à tourner, genre quand le soleil était au plus haut, vers les midis, je regardais la météo, qu'il n'y ait pas de nuages, et du coup on essayait de tourner vite pour que la luminosité soit à peu près pareil quoi. Mais bon, donc c'était assez compliqué. Et le soir, les photographes le savent, hein, souvent ils font des photos, la photographie, ils le font, on appelle ça la golden hour. Ils font ça quand le soleil se couche parce que ça donne une lumière particulière à la photographie. Donc dans certaines scènes, j'ai pu utiliser ça, mais le problème c'est que le soleil se couche vite. Et donc du coup, les scènes, il faut que ça soit des scènes courtes parce que sinon, bah, le temps que les acteurs se mettent dans une certaine position, parce que c'est très long à faire en fait, il faut que les acteurs soient dans une position, que je cadre bien, clac, j'appuie, il faut qu'ils bougent. Et en attendant, le soleil descend. Donc la luminosité peut, d'une seconde à l'autre, hop, on voit le soleil qui descend. Donc voilà, c'était assez compliqué de faire ça. Puis aussi, je joue Zip, comme c'est un film, hein, fait maison, fait sans moyens techniques, sans, comment dire, sans équipe technique. Moi, je me maquillais chez moi, je me maquillais en zip. Je sortais de ma résidence, donc je pouvais croiser des gens, bonjour, voilà, qui me voyaient en zip avec mon pied de caméra, ma caméra, et j'allais autour de ma résidence par là. J'avais repéré des endroits et hop, je posais le pied de la caméra. Je jouais, donc j'étais tout seul, j'avais personne, donc j'avais réglé une télécommande. Pour que ça automatiquement l'appareil toutes les temps de secondes s'allume, prenne les photos. Et donc je mettais l'appareil photo, je ne bouge plus, l'appareil prend la photo, je fais un pas, je ne bouge plus, l'appareil prend la photo pour donner l'illusion du mouvement, que le personnage glissait. Et donc j'ai des gens, des petits rigolos qui passaient derrière à faire les fous, alors fallait que je recommence tout, qui passaient derrière en voiture, ou des gens qui arrivaient avec leurs enfants et qui arrivaient alors que j'étais en train de tourner, qui font, ah, on peut prendre une photo avec le clown. Donc j'ai eu des trucs un peu cocasses comme ça.
Est-ce qu'il y a des travaux en pixelation qui vous inspirent et de façon générale, est-ce qu'il y a des artistes qui vous inspirent de façon au quotidien ou pour la réalisation du film, comme des auteurs de BD ou bien des cinéastes?
Ma mère m'avait passé un petit caméscope à l'époque et on faisait des films avec des amis. J'avais dû faire une fausse manip, que j'avais dû filmer un truc, je sais plus, et puis j'ai dû appuyer sur le bouton et puis réappuyer, éteindre, allumer la caméra. J'ai réalisé, oh, mais tiens, on peut animer comme ça, c'est tout bête. Mais sur le et d'un coup j'ai animé mes copains comme ça. Je me suis dit, ah, oh, je savais pas moi que ça s'appelait pixilation, que tout ça existait. J'étais pas, en plus il y avait pas internet, tout ça, donc j'étais pas très j'ai pas des parents cinéphiles, hein, c'est pas, donc et c'est par hasard que j'ai réalisé ça. Je me suis amusé à animer ma mère, des copains comme ça, en pixilation. Donc la pixilation, non, bah, après je m'y suis intéressé, puis j'ai vu des courts-métrages, et j'ai cherché, j'ai pas vu de long-métrage. J'ai pas vu, il y a peut-être Tom Pouce, un film anglais où il y a pas mal de scènes de pixelation, mais la plupart c'est en stop motion. Mais sinon, à ma connaissance, je me suis renseigné, il n'y a pas de long métrage comme ça en pixie. Mais sinon, ce qui m'a beaucoup c'est la bande dessinée au départ qui m'a appris la narration. Même quand j'étais jeune, bah, tout le monde connaît Peyo, celui qui a fait Les Schtroumpfs. Quand j'étais jeune, moi, c'était pas les Schtroumpfs, c'était Joanne et Pierre-Louis. C'est pas point de vue dessin, mais c'est point de vue narration. C'est très clair, c'est très limpide, c'est très efficace. On oublie qu'on lit une bande dessinée. Et ça m'a influencé petit à petit. Après, il y avait Gottlieb, Goscinny, Moebius, Kino, Bill Watterson. Voilà. Ça, Calvin et Hobbes, par exemple, ça m'a beaucoup inspiré pour mon personnage qui fait justement des strips sur Philo et Sophia. Donc, alors je ne suis pas au niveau hein, de Calvin et Hobbes, mais ça m'a beaucoup voilà, boosté, inspiré. Et dans les réalisateurs de films, c'est beaucoup Pierre Etex, Jacques Tati et Alain Cavalier aussi, qui m'a sa façon de, comment dire, dans sa façon d'être face au cinéma, et surtout c'est Buster Keaton. Qui réalisait ses propres films et qui jouait dedans et qui vraiment le timing. Et là, c'était très important dans mon film parce que comme il y a peu de paroles, ce que j'avais peur en fait, c'est que déjà c'est une technique particulière. Il y a beaucoup de noir et blanc, un mélange de noir et blanc, de couleurs. Il faut pas que les gens s'ennuient. Enfin, il faut que ça soit, comment dire, efficace. Et tout est. Même s'il y a beaucoup de parts d'improvisation dans le montage, après tout était bien réfléchi pour que ça soit une seconde trop longue ou une seconde trop courte, ça fait la différence. Donc, et ça, Buster Keaton, il avait ce. On peut regarder encore des. Par exemple, un des films que j'adore de Buster Keaton, c'est Sherlock Junior. C'est super efficace et de se dire que ça a un siècle et que ça tient toujours la route, c'est fou. Et donc, ça m'a beaucoup inspiré.
Sachez que je suis ravie de vous entendre parler de Pierre Etex, parce que c'est un cinéaste que je trouve qu'on oublie pas mal dans la comédie et j'aime beaucoup aussi.
Oui, je l'ai même mis avant Jacques Tati, hein. Parce
Oui.
que Pierre Etex, ouais, non, j'adore aussi son, même ses films parlants comme il s'appelait Le Grand Amour. Il y a un côté absurde ou décalé que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que c'est vraiment dommage. En fait, le point commun, je trouve pareil avec Jacques Tati, on leur a pas laissé faire beaucoup de films et on sent que il y avait tellement un potentiel, ils auraient pu faire tellement plus. Et déjà avec entre guillemets le peu qu'ils ont fait, déjà on voilà quoi, c'est enfin c'est à voir. C'est à et Pierre Etex, ouais, j'aurais vraiment voulu le rencontrer même. Mais bon.
Alors, ça, c'est une question un peu plus large, mais ça se trouve, il y aura de très beaux exemples. Pour vous, quelle est la plus belle romance de l'histoire du cinéma, vu que votre film, bah, il y a beaucoup de romances, il y a beaucoup d'histoires d'amour?
Alors, ah oui, de l'histoire du cinéma, là, en plus, c'est subjectif. Et puis, c'est une bonne question. Là, en fait, ce qui m'avait marqué, c'était Eternal Sunshine of the Spotless Mind. D'ailleurs, j'aurais pu mettre Michel Gondry dans les réalisateurs qui auraient pu m'influencer, parce que j'aime beaucoup, surtout quand il est au scénario avec. Ah zut, Charlie Kaufman. Eternal Sunshine, oui, je l'avais vu au cinéma à l'époque et ça m'avait vraiment fait, mis une claque. Donc celui-là me vient parce que vraiment, il m'avait touché à l'époque. Après, il y a La Rencontre, un film d'Alain Cavalier, dans un autre style, mais qui est plus, comment dire, qui est touchant parce que c'est une histoire vraie. C'est Alain Cavalier qui filme. Son histoire avec sa compagne. Et ce que j'aime, en fait, c'est souvent le plus important, je trouve, dans la vie, ce sont les petites choses qui peuvent paraître anodines sur le moment, mais dont on se souvient plus tard, un geste, un mot, un moment simple. Souvent, enfin, il me semble hein, que souvent, on va se souvenir de choses toutes bêtes. Et sur le moment, on ne se rend pas compte, mais après, c'est ce qui marque. Et je trouve, dans ce film, on sent bien ça, c'est les choses simples. Sinon, après, dans les comédies, moi, j'avais beaucoup aimé Quand Harry rencontre Sally, dans les films plus, voilà, plus populaires. Oui, même Dirty Dancing, j'avoue. Et voilà, ça fera plaisir à ma copine, j'ai cité Dirty Dancing.
Bah du coup, alors juste pour conclure,
Oui.
bah est-ce que Amour et Pissenlit pourra être accessible un jour au grand public?
Ben, j'aimerais. Mais je ne sais pas. Pour l'instant, je ne sais pas. Rien n'est fait, donc là, pour l'instant, c'est pas. Je peux pas répondre. Mais, mais oui, j'aimerais, mais en fait, il faut que je trouve un distributeur. C'est ça le truc. Il faut que je trouve un distributeur qui aime assez mon film et qui trouve qu'il est assez intéressant pour pouvoir être montré au public. Mais donc, oui, moi j'aimerais, hein, évidemment.
Et peut-être une question d'ouverture. Est-ce que vous avez prévu quelque chose pour la suite? Peut-être un autre film ou alors bah, simplement d'autres travaux?
Oui, non, mais ça, après, des idées de films, j'en ai plein. Mais là, oui, comme je suis tellement occupé à essayer de, par rapport au film, à l'envoyer à des festivals, à l'envoyer à des distributeurs, là, pour l'instant, ouais, je suis plus dans ça. Mais c'est vrai que j'ai hâte de faire autre chose, de me mettre. Quoi. Bah ouais, parce que ça, c'est pas mon métier. Moi, ce que j'aime, c'est raconter des histoires, faire des films. Donc, j'ai vraiment hâte de faire ça. Donc ouais, là, à suivre.
Bah en tout cas, merci beaucoup pour l'entretien.
Oui, merci beaucoup. Les réponses étaient très pertinentes.
Oui, ah bon, ben, merci.
Merci encore beaucoup, Zoom, pour l'interview.
Je vous en prie, merci à vous de m'avoir invité.